Alors moi, je veux qu'un cookie soit gros comme le poing, avec des énormes pépites de chocolat dedans, et pas trop cuit pour quand on l'ouvre, le chocolat il continue à fondre un petit peu, même limite couler sur les doigts.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon. C'est aujourd'hui un biscuit star à la mode, présent partout dans le monde. Symbole des coffee shops, hyper représenté dans la pop culture. Et signe qu'il est vraiment culte, il possède même son emoji. Le cookie est partout. Le cookie ne date pas d'hier, ceci dit. Mais pour comprendre ce qu'il est aujourd'hui, il faut remonter aux sources du biscuit. Car avant d'être la préparation généreuse et gourmande que l'on a aujourd'hui en tête, avec ce qu'il faut de beurre et de pépites de chocolat, le cookie, c'est l'histoire d'un biscuit qu'on a amélioré. Un biscuit que l'on a rendu plus savoureux encore et que le capitalisme a recouvert d'une bonne couche de marketing pour le hisser au rang de produit culte. Mais historiquement, un biscuit, c'est d'abord une petite quantité de pâte à gâteau que l'on dépose dans un moule pour tester la température du four avant d'y déposer un gâteau. En Perse, au 7e siècle avant Jésus-Christ, les fours anciens n'étaient pas encore dotés de thermostats, comme aujourd'hui. Alors pour éviter de rater un gâteau tout entier en le brûlant, on utilisait la technique des test cakes. Le concept a finalement été gardé comme une préparation en soi. Et plus tard, tout au long de la Renaissance, on a trouvé des recettes de biscuits dans les manuels de cuisine. Après la révolution industrielle, les progrès technologiques ont généré une multitude de biscuits commercialisés partout en Europe, avec des spécificités pour chaque pays. Par exemple, entre les amaretti en Italie et les biscuits anglais carrés, il y a tout un monde. Mais leur point commun, c'est leur étymologie qui nous l'apprend. Biscuit vient du mot biscoctum, qui signifie « cuit deux fois ». Ces préparations étaient effectivement cuites deux fois afin de bien supporter le voyage. Voilà pour l'histoire des biscuits. Et c'était important de vous parler de tout ça, car c'est dans ce contexte que naît ensuite le cookie, le biscuit aux pépites de chocolat le plus connu au monde. Le cookie règne tellement sur le monde des biscuits que tout le monde a un avis sur eux. Tout le monde a ses critères en matière de proportion des ingrédients et de cuisson. Rien de plus normal après tout. Tout le monde a déjà fait des cookies à la maison et tout le monde a déjà acheté des cookies. Finalement, il y a un esprit assez open source aux cookies. On sait qu'ils sont faits à partir d'ingrédients aussi basiques que les œufs, la farine, de la matière grasse. Mais ensuite, il y a une infinité d'ajouts possibles. Des pépites de chocolat aux noix de pécan et différentes familles de textures, entre le cœur fondant, les bords croustillants ou encore le côté sablé. En deuxième partie d'épisode, vous entendrez donc plusieurs becs sucrés vous raconter leur vision du cookie parfait, leur recette ou encore leur histoire personnelle avec les cookies du Subway, qui ont longtemps été la seule option cookie mou disponible sur le marché français. Ces dernières années, le cookie est plus que jamais revenu sur le devant de la scène, avec cette nouvelle exigence d'une pâte plus moelleuse, quasi crue, un art du topping très apparent, avec plein d'options personnalisables et toujours plus de services pour être livrés quand on habite dans une grande ville. Mais avant ça, je me suis entretenue avec l'historienne de l'alimentation Ségolène Lefebvre sur la naissance du cookie.
Le cookie est une invention extrêmement ancienne qui provient de l'Europe, en fait. Quand les premiers émigrants arrivèrent aux États-Unis, enfin qui ne s'appelaient pas les États-Unis, dans le Nouveau Monde, et ils apportèrent avec eux toutes leurs connaissances culinaires et leurs recettes. La plupart des immigrants étaient, on peut dire, des gens de peu, qui mangeaient assez frugalement et qui avaient l'habitude de grignoter des petits biscuits secs, petites galettes, qui était facile à transporter, facile à conserver, et que nous connaissons par les recettes médiévales, renaissance, etc. Le cookie, finalement, c'est une petite galette très ancienne qui a connu des améliorations pour devenir beaucoup plus agréable à manger, moins primitive, moins sèche, plus moelleuse. Les livres de recettes du XVIIe, XVIe et XVIIe siècle nous parlent de ces petits gâteaux. Alors le nom vient d'un nom néerlandais. Alors, je ne sais pas, je parle très mal le néerlandais, sans ça, Kooje, ça s'écrit K-O-E-K-J-E, et qui veut dire d'ailleurs petit biscuit, petite galette, très exactement d'ailleurs. Et on retrouve, alors je n'ai pas de livre ancien néerlandais, mais j'ai des livres de cuisine anglaise, et on retrouve ces recettes identiques. En Angleterre, on appelait ça des knots, ou des knuddle biscuits, qui étaient des petits biscuits secs sucrés. Donc, on peut ces recettes, elles sont universelles, on a les mêmes en France, etc. Mais ce sont quand même les premiers immigrants, ce sont des immigrants anglo-saxons. Donc, de cette recette-là, qui est faite à base de farine de blé et ou de flocons d'avoine, on a inventé beaucoup de choses. Donc, au départ, on mélange de la farine, du saindoux, un peu de sucre et un œuf pourlier, et on faisait cuire ces petits biscuits dans des poêles ou dans des petits moules sur une plaque au coin du feu ou dans un four. Et puis c'était des petits biscuits qu'on mettait dans sa poche, donc qu'on pliait dans son mouchoir et qu'on emmenait avec soi quand on avait besoin de se déplacer. La recette originelle, c'est la oatmeal cookies, qui est une recette à base de flocons d'avoine que j'ai retrouvée dans un livre de cuisine américaine, qui est d'une simplicité enfantine à faire, c'est-à-dire qu'on mélange de la farine, de la levure, du sel, un peu de beurre ramolli, parce que maintenant on n'est plus de saindoux dans la cuisine, un peu de sucre, un peu de lait et presque un bol de flocons d'avoine, on mélange le tout, on fait des petits tas, on met au four. C'est très bon. Mais c'est un peu sec, c'est un petit peu... Bon, c'est pas très raffiné, mais c'est un produit délicieux, surtout si on rajoute un peu de vanille dedans. Cette recette originelle, la légende dit, comme toutes les légendes, mais elle est vraie, qu'une cuisinière qui s'appelait Ruth Wackerfield avait une auberge qui s'appelait la Toll House, qui veut dire péage, et qui dans laquelle elle faisait de la cuisine. Et un jour, elle aurait eu idée de rajouter dans cette recette des petits morceaux de chocolat. Et sa recette a eu un succès fou. Alors la recette moderne du cookie, c'est la recette avec des pépites de chocolat. Donc en fait, elle a remplacé le saindoux par du beurre. Elle a rajouté du sucre roux, de la vanille, de la levure chimique plutôt que du bicarbonate de soude, bien que les Anglais utilisent beaucoup le bicarbonate de soude dans leur cuisine, et ces fameuses pépites de chocolat, ce qui a donné un biscuit beaucoup plus gourmand. Et puis, comme il y avait de la levure, il est plus bombé, il est plus doré, donc il a une texture beaucoup plus... La pâte est beaucoup plus sablée, donc c'est plus moelleux, donc c'est agréable. Mais dans la cuisine américaine, on retrouve beaucoup de cookies différents, certains à base d'épices, d'autres qui sont avec des raisins secs, avec toutes sortes de fruits secs d'ailleurs, les panacanes, etc. Des noisettes, des noix, tout ce qu'on veut. Et c'est devenu un biscuit unanimement adopté par la population américaine, jeune et vieux, qui se déguste en général avec un verre de thé glacé et qui maintenant, dans des desserts, peut accompagner des glaces ou se servir juste avec une petite sauce, que ce soit un style crème anglaise ou sauce au chocolat. Donc c'est un dessert qui a eu un succès fou aux États-Unis et toute recette américaine qui a du succès, elle a retraversé l'océan dans l'autre sens et elle a conquis le continent américain en même temps qu'on a adopté la mode de la cuisine américaine, comme vous disiez tout à l'heure, les burgers, etc. Donc c'est à tel point qu'on le trouve même dans des boîtes au rayon biscuits dans les supermarchés. C'est pas uniquement, c'est devenu un produit industriel. Pourquoi on aime ça? Parce que c'est bon. En général, c'est plutôt bon. C'est comme c'est plein de beurre et plein de sucre, le beurre étant un exhausteur de goût, on l'adopte et on ressent davantage les saveurs de ce biscuit. Et il a une texture moelleuse, mais un petit peu croquante, la croûte, enfin ce qui est l'entourage, est assez croquant. Et comme à l'intérieur, il y a souvent des biscuits fruits secs ou des pépites de chocolat, ça donne du croquant, ça apporte une petite saveur nouvelle qui est tout à fait intéressante. Et puis, ça vient des États-Unis, donc comme on adopte tout ce qui vient des États-Unis sans discrimination et sans réflexion non plus, c'est un succès fou en Europe. Voilà ce qu'on peut dire à peu près du cookie, qui est un petit biscuit sympa. Voilà. J'ai du mal à comprendre cet engouement extraordinaire, mais parce qu'on a aussi bon en France, même meilleur avec des bonnes galettes bretonnes, par exemple. Mais c'est comme ça.
Comment on peut expliquer le passage de cette pratique vraiment domestique, donc faire des cookies à la maison, à la présence de ce produit dans les rayons de nos grandes surfaces?
Comme je le disais, la fameuse américaine russe Wakefield, qui a inventé, qui a donné la recette du Toll House Cookies. Donc je crois que c'est quand elle a donné sa recette, il me semble que c'est la marque de chocolat Nestlé a trouvé que c'était intéressant et lui a demandé si elle pouvait mettre cette recette sur les tablettes de chocolat pâtissier. Et en échange de quoi, elle aurait, dit la légende, reçu toute sa vie les quantités de chocolat gratuitement de la part de Nestlé. Donc c'était du donnant-donnant. Je vous donne ma recette, vous m'approvisionnez en chocolat. Et je pense que c'est comme ça que cette recette s'est répandue, et évidemment de l'usage domestique, un industriel bien avisé a récupéré la recette. Et certaines, elles sont d'ailleurs bien moins bonnes quand elles sont faites dans l'usage industriel que dans l'usage par des mains de pâtissière. Même amateur. Mais il y a de multiples cookies, chacun a rajouté sa petite graine. Donc on peut y mettre des noix, des noisettes, des amandes, des raisins secs, tout ce qu'on veut en fait finalement dedans. L'intérêt, c'est d'avoir une pâte sablée moelleuse que l'on peut mettre en petits ronds sur une plaque à pâtisserie et la mettre au four, quoi. Une plaque de four et la mettre à cuire. C'est une recette très, très simple, en fait.
On discutait justement chez Nouvelles Écoutes de la définition du mot cookie, et on se disait que ce qui différencie le cookie du biscuit, c'est probablement le fait qu'il y a forcément des pépites ou un fourrage. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition ?
Alors, pour le cookie tel que nous le connaissons, oui, tout à fait. À l'origine, le fourrage, c'était des flocons d'avoine. C'est ça qui donnait ce côté un petit peu croquant, un peu sympa au biscuit. Et c'est devenu... On a remplacé le flocon d'avoine plus rustique qui faisait penser à la bouillie de flocons d'avoine qu'on avait mangé le matin par quelque chose de plus raffiné, en fait, et puis de plus goûteux aussi.
Je voulais savoir, est-ce que vous, Ségolène Lefebvre, vous avez une recette de cookies préférée? Est-ce que vous faites des biscuits à la maison?
J'en fais pas de cookies. Je suis pas très biscuit. Quand je fais des petits biscuits, je fais des petits sablés bretons de mes origines, mais que j'aime beaucoup. Finalement, la recette est à peu près identique, sauf qu'il n'y a pas de levure dans les gâteaux bretons. Mais si ça vous intéresse, je peux vous donner la recette originale, la Toll House Cookies, le petit four du péage. Petit biscuit du péage que j'ai trouvé dans ce livre de recettes américaines. On voit que c'est d'une grande, grande simplicité. Et c'est peut-être aussi ça qui fait son succès auprès des cuisinières, c'est que n'importe qui peut faire ça. On peut faire ça avec des enfants, les enfants peuvent les faire. Il n'y a aucune difficulté pour réaliser ce biscuit qui est agréable à manger. Alors maintenant, oui, il y a un engouement qui est... Bon, comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que ça vient de notre goût que l'on a pour tout ce qui vient des États-Unis. Si ça vient des États-Unis, c'est génial. C'est comme le Coca-Cola, par exemple. Sauf que c'est meilleur que le Coca-Cola. Mais pour lequel j'ai une sainte horreur. Mais c'est des modes. Ce sera peut-être démodé un jour et remplacé par autre chose. Mais les pâtissiers qui font des cookies sont aussi des brownies, qui est quand même un gâteau plus raffiné. Donc le cookie, ça vient aussi du fait qu'on peut le manger n'importe où, qu'il est simple à transporter, voilà, pas trop calorique, enfin quoique, c'est un biscuit quoi.
Oui, qui supporte bien aussi la conservation.
Tout à fait, on le conserve très bien dans une boîte en métal, donc c'est pratique, comme tous les biscuits secs qui se conservent, c'est ce qu'autrefois on appelait aussi les biscuits de voyage.
Aujourd'hui, ce biscuit de voyage est devenu à ce point mythique qu'il est même une saveur. La pâte à cookies crue, la cookie dough, est désormais un parfum de glace et même une préparation sucrée vendue telle qu'elle et prête à manger, sans œufs et avec une farine spéciale. Et puisqu'on parle de biscuits faciles à transporter, j'ai pensé à Zelika Dinga, chef indépendante à la tête du service de catering Caro Diario, qui propose une livraison de cookies à travers Paris grâce à son vélo bleu. C'est une idée qui a germé dans son esprit pendant le confinement, période pendant laquelle elle livrait autour de chez elle dans le 18e arrondissement à Paris. J'ai rejoint Zelika lors de sa tournée de cookies entre deux livraisons. Alors pour commencer, Zelika, est-ce que tout simplement tu peux me parler de ta vision du cookie parfait selon toi ?
Alors, pour moi, le cookie parfait, c'est le cookie que je définis, que j'imagine comme le cookie à l'américaine. Donc, le cookie qui est vraiment crispy à l'extérieur et un peu cette texture gooey, molle et à peine cuite à l'intérieur. C'est vraiment pour moi le cookie des gens qui, enfant, léchaient la pâte à gâteau au fond du plat, tu sais, et qui adorent, le côté hyper mou, hyper cru de la pâte. Voilà, pour moi, c'est ça, hyper généreux. Il faut que la garniture elle soit présente, genre un cookie avec trois pépites de chocolat, je trouve ça un petit peu frustrant. Et voilà, et plutôt généreux en taille aussi. Un petit cookie de 30 grammes, je trouve ça un peu mesquin.
Alors oui, j'aimerais qu'on vienne ensemble sur ce que tu as dit à propos du côté presque pas cuit, parce que c'est aussi ce qui ressort de tes cookies, un côté comme ça coulant, fondant. Est-ce que ce sont les bons adjectifs selon toi ?
Ouais, c'est tout à fait juste. C'est à l'intérieur, t'as cette pâte qui est à peine cuite. Et en fait, j'ai juste laissé le temps à la garniture, donc au chocolat, au chunk de chocolat, de fondre. Et ça va donner ce truc où tu croques dans le cookie et ça, t'as cette première attaque, ce côté crispy à l'intérieur, et puis avoir à l'intérieur du chocolat un peu fondu, des fruits secs, et puis surtout la pâte presque crue.
Comment tu fais exactement alors pour que cette pâte elle soit pas trop cuite, mais en même temps, voilà, il faut quand même cuire un minimum l'ensemble.
Et ben tu vois, c'est drôle parce que dans ma quête du cookie parfait. En fait, j'ai pensé au début que c'était uniquement une question de cuisson et qu'en prenant la recette de cookies, une recette de cookies un peu trouvée au hasard et en la sous-cuisant, j'allais avoir cette texture. Et en fait, non, pas du tout. C'est aussi une question de balance d'ingrédients, le fait d'avoir plus ou moins de beurre, plus ou moins de farine et aussi la richesse de la garniture, avoir quelque chose qui permet de se tenir en volume et qui va favoriser voilà un extérieur croquant et un intérieur un peu mi-cuit.
Donc est-ce que ça veut dire plus de beurre, moins de farine ou l'inverse ?
Ça veut dire énormément de beurre, ça veut dire pas mal de farine et ça veut dire surtout, je crois, un ratio garniture. Donc ce que j'appelle la garniture, par exemple, sur mon cookie un peu signature, allez, chocolat-noisette, il y a énormément de chocolat et de noisettes. Il y a peut-être plus de garniture que de pâte à cookie, en fait.
Ah oui, donc à ce stade, la garniture n'est plus une garniture au sens de bonus, quoi. C'est un élément essentiel de la pâte.
Ouais, tout à fait. En fait, c'est pas du tout accessoire. C'est peut-être une garniture à la pâte à cookies, plus qu'une pâte à cookies à la garniture. Parce qu'après tout, la pâte à cookies, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Et je pense dans tes diluviens, quoi. Il y a quatre ingrédients. T'as de la farine, de l'œuf, du beurre et du sucre. Et c'est à peu près les ingrédients de base de, je crois, toute la pâtisserie française, sinon internationale. Donc ça, il y a cette petite mixture que je fais. Et après, voilà, c'est la garniture qui fait que, qui rajoute le wow effect et qui permet aussi d'avoir une texture intéressante. Ouais.
Est-ce que ça t'a pris du temps, un certain nombre de recettes avant de trouver celle-là, ta recette préférée ?
Ouais. Écoute, ça m'a pris pas mal de temps et j'avais pas du tout... En fait, à la base, je suis pas une fanate cookies. Mais j'ai été piquée parce que j'ai fait une première recette de cookies que j'avais lue dans un livre de recettes. Et je m'attendais à avoir ce fameux rendu là dont je parle, le cookie à l'américaine, et ça n'a pas du tout été le cas. Ça a été plutôt le cookie hyper biscuit, donc bien cuit, limite caramélisé sur les bords, délicieux aussi, mais pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et à partir de là, bah ça a été la quête du cookie avec cette texture à laquelle je pensais. Et ouais, ça a été assez long. Je dirais qu'il y a eu, tu vois, j'ai dû faire goûter mes premiers cookies en décembre. Et là, voilà, je pense que je viens de remodifier la recette fin août. Donc voilà, ça a pris 6-7 mois pour avoir une recette dont je sois contente.
Après avoir laissé Zélika dans le 6e arrondissement, j'ai rejoint mon ami Fabien, que vous avez déjà pu entendre quelques fois dans Bouffon. Et je tenais à lui tendre le micro cette fois sur la question des cookies, car il a une recette qu'il aime beaucoup suivre, celle d'Alison Roman, qui propose des cookies un peu shortbread, ces biscuits sablés écossais réalisés sans œufs.
En fait, c'est des cookies, c'est un croisement. Alors qu'elle, elle a appelé, parce qu'elle est très bonne en marketing, puisqu'elle est une millennials comme nous et qu'elle a tout compris aux réseaux sociaux, elle les a appelés The Cookie. Parce qu'en fait, c'est un croisement entre des cookies au chocolat classique et des shortbread. Donc en fait, leur particularité, c'est qu'ils sont faits sans œufs, quasiment. Comme un shortbread, en fait, avec du beurre, de la farine. Et du coup, l'aspect cookie, c'est le chocolat. En plus, elle rajoute, mais c'est pas obligatoire, autour un peu de sucre de canne. Pour que vraiment il y ait un côté croustillant, voire caramélisé. Et surtout la touche finale, parce que c'est quand même un gâteau. Vous avez déjà mangé un shortbread assez lourd, assez sucré, assez beurré. Elle rajoute, parce que c'est très à la mode, mais c'est aussi très bon, un peu de fleur de sel par-dessus. Et ça fait vraiment toute la différence. Il y a le côté shortbread et chocolat, donc on a le goût chocolat, on a le côté croquant du shortbread qui fond immédiatement dans la bouche, parce qu'il n'y a aucune résistance, puisqu'il n'y a pas d'œuf. Donc du coup, et on a juste cette pointe de sucré. Cette pointe de gras qui tout de suite rentre presque en onde de choc contre le sel et qui le ferme pour le réouvrir un peu plus derrière. C'est vraiment très chouette, je trouve, comme sensation en bouche.
Ah oui, donc le sel renforce le gras et le côté sucré. Ça renforce un côté addictif aussi, probablement ?
Sûrement. Je pense que ça joue aussi un peu. Mais je pense que c'est vraiment... Ça vient mettre un coup d'arrêt net. Tu le mets en bouche, le cookie. C'est d'abord tu vas sentir le sucre et le beurre, et puis là tout de suite tu vas sentir le sel, donc ça va mettre un coup d'arrêt à ce côté très sucré pour au mieux qu'il revienne juste après. Ça va faire une pointe comme un pic, et puis après presque comme un vent en fait, dans un deuxième temps tu vas avoir un retour du sucre mais un peu moins fort, avec le chocolat qui va lui aussi fondre sur la langue. Et je trouve que c'est vraiment agréable, et c'est vraiment la mode en ce moment de faire de la pâtisserie avec de la fleur de sel, mais en vrai il y a une raison. Je pense que c'est vraiment très bon, notamment sur les trucs très chocolatés, ça fonctionne assez bien.
Tu l'expliques super bien, je vois assez bien du coup l'effet du sel, un peu comme une falaise, un truc escarpé à un moment dans le paysage gustatif.
Exactement, parce que pour autant j'aime bien, c'est presque une valeur cocon, une valeur refuge le cookie. Moi parfois le dimanche j'ai un coup de blues, je fais des cookies, je suis content. Mais là je trouve qu'on a la valeur refuge, on a le côté cocon, enrobant du sucre, du gras, mais avec un coup de fouet par-dessus. Et je trouve ça assez agréable et intéressant gustativement parlant par rapport à un cookie classique.
Est-ce que le cookie mi-shortbread, il est qu'est-ce qu'il apporte en plus qu'un simple cookie ou qu'un simple shortbread ?
Le meilleur des deux. Il apporte le côté... Parce que justement, tu as dit que c'était pas si fondant, mais c'est juste que c'est croquant, un shortbread. Mais il apporte le côté très fondant et beurré du shortbread, qu'on aime bien, en lui rajoutant du chocolat à l'intérieur, qui lui aussi va être fondant parce qu'il est cuit. Et je pense que c'est vraiment le meilleur... Pour moi, c'est vraiment le meilleur des deux mondes, ce cookie.
Le côté réconfort, c'est aussi ce que Coralie et Aurélie du café Les Succulentes avaient en tête lorsqu'elles se sont mises à en vendre. Depuis que les bars et les restaurants sont fermés à Marseille, elles proposent une vente à emporter de cookies, et de l'avis de plusieurs personnes, ce sont les meilleurs de la ville. Je suis allée chercher mon petit déjeuner chez elle un matin et j'en ai profité pour demander à Aurélie de me parler de sa vision du cookie idéal.
Moi, je veux qu'un cookie soit gros comme le poing, avec des énormes pépites de chocolat dedans, et pas trop cuit pour quand on l'ouvre, le chocolat il continue à fondre un petit peu, même limite couler sur les doigts, tout ça. Voilà.
C'est difficile ou pas à réaliser un cookie comme ça ?
Nous, pour établir notre recette, on a fait pas mal d'essais, au plus grand bonheur de nos amis et familles qui ont pu tester une tonne de cookies. Mais il y a quelques petits tips qui peuvent faire qu'on peut réussir à faire un bon cookie comme ça. Le premier, donc, c'est évidemment les énormes pépites de chocolat. Il ne faut pas hésiter à mettre limite un demi-carreau dans le cookie. Après, il faut laisser reposer la pâte au frigo. Il ne faut pas les faire cuire tout de suite dès que la pâte est prête. Et un dernier petit tip, ça peut être de ne pas les aplatir. Il faut vraiment les cuire ronds, bien, bien gros pour pas qu'ils s'affaissent.
Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours aimé dans ta vie ? Est-ce que c'est un truc aussi que tu faisais chez toi quand tu étais plus jeune ?
Alors moi, je suis très sucrée et très pâtisserie, donc j'ai toujours adoré le chocolat, et que ce soit les gâteaux ou les cookies. Mais l'envie de faire un très bon cookie aux succulentes, c'est venu d'un voyage à New York, où j'ai goûté ces cookies de chez Levain Bakery, que sûrement beaucoup de gens connaissent. Et j'ai été estomaquée par la taille du cookie, la moellosité du cookie, et j'avais très envie de refaire la même chose. Et voilà, c'est pour ça que j'ai essayé de faire un peu la propre recette des succulentes qui s'inspirait de ce cookie-là.
Le cookie américain hyper moelleux dont parle Aurélie, on a longtemps eu du mal à le trouver en France. Pendant longtemps, tous les cookies ressemblaient à ceux des supermarchés, ces cookies presque sablés. C'était avant ce moment charnière où les marques de grande surface ont compris le goût de l'époque pour les cookies mous, d'où la naissance de gammes de cookies à réchauffer au micro-ondes, pour les avoir plus moelleux encore. À cette époque, seuls les cookies du Subway avaient de quoi nous satisfaire. Et ça, Julien de Nouvelles Écoutes s'en souvient très bien.
Moi, j'ai passé beaucoup de temps aux États-Unis quand j'étais ado. J'ai fait mon lycée là-bas. J'étais dans une famille d'accueil, dans un lycée américain. J'étais dans l'Ohio. Et en fait, le cookie aux États-Unis, enfin, en tout cas dans cette Amérique, il est tout le temps. Il est partout, il est hyper présent. Et surtout, il est présent en grand nombre. On appelle ça les batchs. Les batchs, c'est les fournées. Et en fait, dans un lycée américain, il y a 25 clubs. Il y a le club des chefs, etc. Il y a tout le temps des réceptions, il y a tout le temps des petits-déj. Et même dans les anniversaires chez les gens. Et à chaque fois, les gens, ils amènent des espèces d'énormes cartons blancs qui viennent souvent de chez Walmart avec peut-être 50, 100, 150 cookies dedans. Et en fait, le cookie de Walmart, il est hyper industriel, évidemment, hyper bon, en fait, parce qu'il est, un peu sous-cuit, un peu undercooked. Et surtout, il a évidemment des pépites de chocolat. Sinon, ce n'est pas un cookie. Mais parfois, il y en a même qui ont des petits smarties, donc des petits de chocolat avec les couleurs. Dans les cuisines, il y a souvent des familles qui ont leur cookie jar, leur bocal de cookies, où, en fait, qui est toujours là, qui est toujours plein, on ne sait pas comment, et qu'on mange constamment. Bref, du coup, il y a vraiment un truc de... Le cookie est hyper présent et il est cuit de manière industrielle. Donc, il est un peu sous-cuit et il est mou, en fait. Il est un peu dur autour et mou à l'intérieur. Et ça, moi, quand je suis revenu des États-Unis en France, globalement, dès qu'il y avait un cookie dans un café, dans un resto, dans une boutique, je le prenais et je cherchais à retrouver cette texture un peu molle. Aujourd'hui, il y en a partout. Mais à l'époque, il y a 10-15 ans, c'était pas du tout le cas. Et en fait, je me rappelle très bien qu'un jour, je devais faire un petit boulot d'été ou un truc comme ça, je ne sais plus exactement. J'ai fini par aller m'acheter à déj chez Subway. J'étais jamais allé chez Subway de ma vie. Et en fait, il y a le comptoir avec les petits cookies. Et je crois qu'il y a une formule avec le sandwich et le cookie. Intrigué, je me suis dit, je vois rarement des cookies avec des Smarties ou avec des pépites de chocolat de couleur. Et je l'ai pris par curiosité. Et là, ma vie a changé. Ma vie a changé parce que j'ai découvert qu'en fait, Subway faisait des cookies mous. C'est horrible de dire ça. Cette phrase, elle est atroce. Que toute ma vie, j'ai cherché les cookies mous de Subway. Mais en fait, du coup, j'ai retrouvé la même cuisson un peu pas terminée des États-Unis. Et ça m'a rappelé tellement de souvenirs que en fait, je suis devenu pendant très longtemps un gros acheteur de cookies chez Subway. Je pouvais aller chez Subway que pour ça et prendre genre 6 cookies. Et le mec comprenait pas du tout parce qu'il y avait les boulangeries pour ça. Et puis ensuite, c'est devenu le cookie s'est imposé de plus en plus en France et les techniques de cuisson aussi. Le cookie mou, il est trouvable partout maintenant. Mais à l'époque, c'était il y a 15 ans, en tout cas, moi, je les ai pas trouvés. Je les ai trouvés que chez Subway. Et depuis, Subway a une place spéciale dans mon cœur, comme ceux qui m'ont ramené les cookies de mon adolescence.
Il y a un personnage dans la culture populaire très connu pour son amour pour les cookies. Cookie Monster, cette marionnette reconnaissable à ses poils tout bleus qui intervenait dans une émission pour enfants des années 60 sur les télés françaises et américaines. En français, il est censé s'appeler Macaron le Glouton, mais je crois que personne ne l'appelle comme ça. Cookie Monster se rue sur les cookies à chaque fois qu'il en voit. Et je me dis qu'il est finalement à notre image, nous, la communauté des personnes incapables de faire des cookies et de les ranger dans un bocal comme dans les séries américaines. Non, nous, les fournées de cookies, elles s'engloutissent à peine sorties du four, encore sur la plaque. Bouffon est un podcast de nouvelles écoutes que j'anime avec l'aide en coulisses de Laura Cuissard et les coups de main de Clara Maté. Merci également à Ségolène Moncel pour ses recherches pour l'épisode. Montage par Marine Rowe, mixage par Thomas Decourt, générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux.